Europe 1,
23h, 1h,
la libre antenne, Sana Blanger.
Chers auditeurs, je suis très heureuse de vous accompagner ce soir jusqu'à 1h du matin dans la libre antenne d'Europe 1. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Ce soir, notre émission parlera d'échecs. L'échec est le fondement de la réussite, disait Lao Tzu, un grand sage chinois. Effectivement, l'être humain apprend de ses échecs comme tous les êtres vivants. Et vous, que vous est-il arrivé? Comment avez-vous réagi? Qu'en avez-vous appris? Aujourd'hui, qu'auriez-vous fait ou dit différemment? Doit-on systématiquement condamner l'erreur ou l'incompréhension qui mène à l'échec? Qu'en pensez-vous? Venez témoigner. Dites-nous comment vous avez réagi à l'échec et comment vous en avez tiré des leçons profitables. Évidemment, si vous souhaitez nous contacter pour nous parler d'un autre sujet, la Libre Antenne reste votre émission. Ce soir, je vous propose d'avoir une pensée de soutien pour tous ceux qui pensent manquer de courage. Nous sommes là pour vous apporter du réconfort, une écoute ou une solution, mais la suite vous appartient. Allez, appelez-nous en direct au 3921 pour nous joindre par SMS composé le 7-3921 en commençant par le mot « nuit » et par mail libreantenne@europe1.fr. J'ai la chance, encore une fois, d'être bien accompagnée ce soir. Jules et Oscar vous attendent au standard. Et c'est Andreas Papazian qui réalise l'émission de ce soir. Avant d'accueillir notre première auditrice, je vous donne des nouvelles d'Annette et de ces deux garçons. Elle nous avait contactés hier soir. Donc, pour vous rappeler le contexte, suite à des violences conjugales, Annette s'est séparée du papa de ses enfants. Et bien qu'un cadre ait été posé concernant la garde, celui-ci ne les a pas ramenés hier. Donc, elle nous avait contactés. Et donc, je vous donne des nouvelles. Elle les a récupérés ce matin. Et donc, elle a pu passer la journée comme il était prévu. Donc nous sommes soulagés. Bon, l'affaire suit son cours, mais en tout cas, on est extrêmement soulagés et nous lui souhaitons tous bon courage pour la suite, car il n'y a rien de simple ni de logique lors de relations conflictuelles.
La Libre Antenne sur Europe 1, Sana Blanger.
Eh bien, comme hier, nous avions également Dominique qui nous avait contacté et nous retrouvons Dominique. Bonsoir.
Bonsoir, Sana.
Comment ça va depuis hier soir?
Bah écoutez, avec beaucoup d'appréhension, j'attendais de repasser ce soir, en fait. Et c'est toujours très intimidant.
Oui, mais même pour moi, vous savez.
J'apporterai une petite précision. En plus, ça, oui. Je rebondis sur la petite erreur que vous avez faite, puisque vous avez dit avant d'accueillir notre première auditrice.
Ah, pardon. Mais oui, c'est vrai.
Oui, non. Voilà, justement, j'allais rebondir là-dessus, puisque effectivement, j'ai oublié de le préciser à Oscar, c'est que j'ai un deuxième prénom qui est Martin et pour lequel finalement c'est mon prénom pratiquement usuel de tous les jours, puisque confronté à justement l'erreur que vous avez faite dans ma situation professionnelle où j'avais une collègue qui portait exactement le même nom et le même prénom. Donc au final, on avait pris l'habitude de m'appeler Martin, comme c'était mon deuxième prénom. Et tous mes collègues m'appellent toujours Martin.
Bon, voilà. et en fait, pour tout vous dire, je devais prendre une auditrice au départ. Et j'ai, comme je vous l'avais promis, donc je n'avais pas rectifié. Vous avez entièrement raison.
Alors, c'est pas grave.
Dominique, on remet le contexte, on remet le cadre, la raison pour laquelle vous nous aviez contacté hier, c'est que vous appartenez à une fratrie de trois. Vous êtes celui qui est situé juste au milieu. Et en fait, dans cette fratrie, vous n'avez jamais eu le sentiment de trouver votre place.
Certes, et certes. Et...
notamment vis-à-vis de vos parents, surtout.
Oui, exactement, exactement, vous l'avez bien résumé.
Sachant même que vous aviez démarré l'émission en disant que vous aviez un sentiment de culpabilité, allant même penser que vous étiez le mauvais garçon, parce que vous ne ressentez pas de lien fort vis-à-vis de vos parents. Alors, de lien fort, c'est de l'amour vis-à-vis de vos parents.
Absolument, oui.
Vous êtes vous-même papa de deux enfants.
Deux enfants, oui.
Qui ont quel âge ? Rappelez-moi.
Alors, ce sont deux garçons, un de 20 ans et un de 12 ans.
Voilà, 20 ans et 12 ans. Vous aviez besoin de faire un petit peu, enfin, d'avoir un éclairage sur à la fois ce sentiment de culpabilité et en même temps, moi j'ai vraiment envie tout de suite de vous poser la question, est-ce que Dominique, vous avez envie, vraiment envie de retrouver, entre guillemets, vos parents ?
C'est effectivement j'y pensais aujourd'hui, c'est un petit peu le fond de la... le fond du problème, dans le sens où, avec le temps, avec les expériences qui m'ont fait vivre, je dirais qu'au niveau caractère, je me suis endurci, je deviens dur. Je suis devenu très dur du reste et je me surprends moi-même d'être aussi dur parfois et de me tenir à des... quand je prends une décision, de me tenir et de ne pas regarder en arrière. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que vous posez bien la question dans le sens où, vu ce qui s'est passé, vu la distance que je prends petit à petit, quelque part, je n'ai pas envie de revenir en arrière. Et le fait de partir de l'avant pour la énième fois, puisque j'ai le sentiment que ça va m'éloigner encore plus d'eux,
oui.
C'est là, effectivement, où je vous expliquais que je culpabilisais, dans le sens où est-ce que c'est normal qu'on ait ce comportement-là ? Mais si vous voulez, il y a une genèse à toute cette histoire. Et comme je l'expliquais hier, j'ai été dans un contexte très sévère où tout était basé sur le travail, les études, et il n'y avait pas de place pour le reste, pas de place pour l'amusement, pas de place pour les amis.
Oui.
La seule échappatoire que j'avais, comme je vous le disais aussi, c'est que j'avais la chance d'avoir une grand-mère aimante et chez qui j'allais avec grand plaisir et où j'ai justement d'excellents souvenirs, tous mes souvenirs d'enfance, ils sont là-bas, ils sont restés là-bas. Ma Madeleine de Proust, c'est les petits objets que j'aurais pu récupérer chez elle,
hein,
qui me permettent de renouer avec cette époque-là heureuse. Alors que dans mon propre contexte familial, je n'ai aucun souvenir heureux. J'ai pas de souvenir de moments heureux que j'ai pu avoir avec l'un ou l'autre de mes parents. Puisque ni l'un ni l'autre ne montrait de signe d'affection, ne montrait de signe de reconnaissance ou d'approbation. Et quelque part, c'est peut-être que j'avais besoin de...
Je comprends. Je comprends d'où ce sentiment d'incompréhension qui a grandi au fur et à mesure.
Absolument, qui a grandi.
Oui. Et donc, vous avez ressenti le besoin de quitter très tôt, hein, vous l'expliquiez également très tôt, le foyer, en tout cas vos parents.
Oui.
Et est-ce qu'il y a une phrase que vos parents vous répétaient tout le temps quand vous étiez petit ?
Il fallait, comment vous dire, fallait pas se plaindre.
Donc c'est soit fort. Soit fort.
C'était il fallait faire, ne pas, on ne s'occupe pas des autres, on ne dit rien aux autres.
Oui, c'est ça.
On ne devait pas parler de nous, si vous voulez. Il y avait pas de, on ne devait surtout pas parler de ce qui se passait chez nous.
D'accord.
Voilà, c'est.
Alors. Il y a ce qu'on appelle les messages contraignants qui peuvent vous aider à comprendre ce qui s'est passé et comment vous vous êtes construit, en fait. Alors, les messages contraignants, sont sur, en fait, les constellations. Et donc, comment est-ce que nous avons été élevés et éduqués par nos parents ? Et il y a 5 phrases qui reviennent souvent, qui sont soit « fait vite », soit « fort », soit « parfait », « fait plaisir », et j'ai oublié le cinquième, mais ça va me revenir. Et en fait, ce qui peut être très intéressant pour vous, c'est de faire ce test que vous trouverez sur Internet, et ça s'appelle « les messages contraignants ».
Oui.
Ça vous permettra déjà de savoir quelle est cette petite voix interne, intérieure, que vos parents ont marqué, ont ancré chez vous. Ça, c'est la première chose. Ensuite, comment ont-ils, eux, été éduqués ? Est-ce que vous savez quelle était la nature de la relation qu'ils avaient eux-mêmes avec leurs parents ?
Oh bah c'était l'ancienne génération, donc forcément il y avait c'était pareil. Je suppose qu'ils m'ont élevé finalement, enfin ils nous ont élevés de la même manière plus ou moins que eux ont dû l'être.
Absolument. Oui.
Que je, comme je vous le disais, ma grand-mère qui était une femme admirable,
oui,
avait finalement très peu de moyens. C'est une femme qui avait eu beaucoup d'enfants. Qui avait bossé comme elle l'avait pu, elle avait tenu sa maison. Et puis voilà, après elle se contentait de peu, et tout ce qu'elle pouvait nous donner à nous, elle nous le donnait,
oui,
sans chercher. Et puis on se contentait de peu finalement, parce que ce qui venait d'elle, au final, ça venait plus du cœur que du porte-monnaie. Mais néanmoins, le peu d'argent qu'elle avait, elle a toujours fait de façon... parce que ses petits-enfants, quels qu'ils soient, aient quelque chose venant d'elle.
D'accord.
Donc, forcément, l'ancienne génération, ils n'ont pas été élevés comme on élève nos enfants maintenant.
Oui.
Et donc, moi, je me suis appliqué justement à ne pas reproduire ce schéma. Certes,
voilà,
mes enfants ont été élevés avec un cadre,
oui,
mais néanmoins, moi, j'ai voulu leur montrer qu'on les aime. Mes enfants, je leur dis que je les aime. Et j'ai toujours montré l'amour que j'ai à mes enfants et ils le savent.
D'accord.
Et on n'a pas peur de, ouais, on n'a pas peur de se dire quels sont nos sentiments.
Dans tous les cas, si vous souhaitez vous réconcilier ou retrouver vos parents, ça peut être une belle porte ouverte que justement parler de la façon dont eux-mêmes ont reçu cette éducation, peut-être un peu froide, un peu distante, ça peut vous permettre de retrouver, ou en tout cas trouver des liens autres, ou en tout cas d'en créer de nouveaux. Ça peut être une belle porte d'entrée. Encore une fois, Dominique, si vous en avez envie. Donc là, on revient à la première question du départ, c'est avez-vous envie de vous réconcilier ou de régler vos comptes avec vos parents ? Là, vraiment, comme la suite vous appartient.
C'est vrai. La question est posée. Régler mes comptes, certes, mais j'ai pas l'impression qu'on m'écoute quand je dis quelque chose, puisque des choses m'ont déplu. J'ai essayé de leur faire comprendre, et systématiquement, ils ramènent ça de façon à ce que je me sente comme un affabulateur.
Mais c'est exactement ça. Je suis même certaine qu'ils vous donnent comme exemple la fratrie en vous disant « Mais non, mais avec ta sœur, ça se passait très bien. Avec ton frère, pareil. » C'est tout à fait...
Exactement.
Voilà, c'est tout à fait normal. Alors, autant ouais, vous vous demandez si c'est dans la norme, mais effectivement, là, du fait qu'il y ait beaucoup, beaucoup d'incompréhension et que peut-être, sans vous en rendre compte, vous êtes en disque rayé là-dessus vis-à-vis d'eux, eh bien, en fait, mécanisme de défense, ils finissent par vous dire « Mais non, mais pas du tout, mais tu te trompes. » Voilà, et c'est, vous êtes le vilain petit canard, en fait.
C'est ça. Et j'ai essayé surtout, bon, j'en ai pris le parti, si vous voulez, de ce qu'ils m'ont fait endurer. Mais c'est ce que j'expliquais hier, c'est qu'ils reproduisent un schéma vis-à-vis de mes enfants. À savoir que mes enfants ne sont pas leurs seuls petits-enfants.
Oui.
Et qu'ils n'ont pas du tout... Ils n'ont pas du tout le même rapport avec les autres petits-enfants. J'ai le sentiment qu'effectivement, moi, du fait de mon métier qui m'a éloigné avec grand bonheur du reste, qui m'a éloigné de ce contexte familial, ça m'a également, je le pense, marginalisé vis-à-vis de la famille. Forcément, eux vivent des choses de leur côté.
Oui.
Et on est en décalage avec eux, automatiquement. Et mes enfants, j'ai toujours eu le sentiment, et il y a des petites choses qui ne trompent pas. Ils ne les considèrent pas comme ils considèrent les autres. Et je me rends compte que ce n'est pas un cas isolé, puisque d'autres, des camarades avec qui on aurait pu aborder le sujet, ça, c'est arrivé.
Bref. Oui.
Mais et ce qui me chagrine tout autant, c'est qu'au final, mes enfants n'ont pas l'image des grands-parents comme moi j'ai pu l'avoir
avec votre grand-mère.
De ma grand-mère,
oui.
Voilà.
Oui. Bon, il y a les grands-parents du côté de la maman, ça se passe bien.
C'était justement ma grand-mère, c'était la mère de ma mère.
Voilà. Mais de votre conjointe.
Ah, ben là c'est encore un contexte différent puisque ce sont des personnes âgées qui sont malades, mais sinon, oui, c'est l'image de la grand-mère telle que moi je me la représentais.
Eh bien, justement, il y a peut-être de ça aussi. Si vous avez envie de vous réconcilier avec vos parents, c'est peut-être aussi de les accepter comme ils sont. Et c'est une preuve que nous-mêmes, nous grandissons. Vous avez peut-être également un schéma bien précis dans votre esprit des parents, vous savez, le contexte de la famille idéale, les grands-parents, tout idyllique. Et du fait que finalement, on se rend compte que c'est différent, c'est aussi une façon de grandir. Donc, les accepter comme ils sont, c'est aussi vous continuer à grandir.
Mais j'ai l'impression également qu'ils m'en veulent pour toute autre chose, puisque il y a...
Ça reste une impression, Dominique.
Mais,
j'ai
oui,
l'impression,
oui.
Donc ça reste une impression.
C'est une analyse que moi je fais, puisque cette année, si vous voulez, j'ai eu un âge avec un zéro derrière, et je ne sais pas pourquoi, mais j'appréhendais cet anniversaire. Je ne sais pas pourquoi, j'avais quelque chose, j'étais mal à l'aise peu de temps avant.
Oui.
Et une nuit, étrangement, il m'est venu à l'esprit des choses. Et le matin, j'étais perturbé, mais il m'est venu beaucoup de choses à l'esprit. Et en me réveillant, je me suis dit, mais bon sang, peut-être que, effectivement, c'est ça. Puisque dans mon enfance, j'ai subi une agression de l'un de mes oncles. Mais... Je n'ai jamais réussi à lui en vouloir à cet homme-là. Donc, quelque part, j'avais enfoui ça comme étant un souvenir, quel qu'il soit. J'en ai pas fait plus de cas de figure. Et étrangement, c'est revenu à mon esprit cette année et ça m'a un peu perturbé. Je me dis, j'ai l'impression, comme vous le dites, ça n'est qu'une impression, mais j'ai l'impression que ces choses-là se savaient dans la famille et qu'ils m'en ont voulu à moi, en fait, que... s'en prennent à moi et que quelque part ils devaient le savoir probablement.
Oui.
Je suppose qu'ils le savaient, mais il ne fallait pas en parler.
Alors, oui. Je vous parlais tout à l'heure des messages contraignants. J'ai retrouvé celui qui me manquait. Donc, il y en a 5. Donc, je recompte. Fais vite, sois fort, sois parfait, fais plaisir et fais des efforts. De ce que vous me décrivez, j'ai le sentiment que vous avez été éduqué sur le soit fort et soit parfait. Par conséquent, quand on est dans ce contexte-là, on n'a pas le droit de se plaindre.
Oui.
Donc tout ce que vous pourriez dire, non, c'est un peu sèche tes larmes. T'es un grand garçon, t'es fort. Soit vous leur écrivez, soit encore une fois, si vous avez vraiment envie, vous pouvez régler vos comptes. Mais attention, il faut choisir le bon moment. C'est pas... autour d'une table avec toute la famille le soir de Noël. Faut choisir un moment dans un endroit neutre. Mais vraiment, parce que j'ai le sentiment qu'il y a pas mal d'incompréhension de part et d'autre. Et puis finalement, ça finit par faire, vous savez, l'effet millefeuille. Et puis on finit par s'en vouloir. Et de part et d'autre, ça crée des incompréhensions, des malentendus.
Probablement. Mais
qu'en pensez-vous? Oui.
Si vous voulez, les dernières fois que je les ai vus, où on a eu encore une altercation, ils sont revenus sur des choses.
Mais voilà, il y a de la rancœur.
Pour moi,
aussi.
C'était passé. J'avais fourni une explication puisqu'ils m'ont reproché à maintes reprises de ne pas avoir pu participer à des événements familiaux, alors que malheureusement, mon métier m'éloignait de la région à ce moment-là. Donc, il se trouve que au moment, la dernière fois que je les ai vus, nous avions un autre événement familial pour lequel j'avais réussi à m'organiser, et quelque part c'est revenu sur le tapis et on me l'a remis encore comme quoi je n'avais pas fait d'effort à ce moment-là, je ne voulais pas faire d'effort.
Oui.
Ce à quoi l'un de mes enfants a essayé d'expliquer la situation puisque lui aussi était partie prenante dans cette affaire, mais non, on n'a pas voulu, et quelque part, on nous a clairement fait comprendre que, puisque nous n'étions pas là, et bien quelque part, c'était aussi bien. Et ma rancœur, vraiment, là, le désir de tout couper, est vraiment parti de cette réflexion-là. Là, je me suis dit, je ne peux plus. Puisque c'était une accumulation par le temps, et là, je pense que c'était le mot de trop.
Dominique, avec ce que l'on vient de se dire, est-ce que je vous propose le temps de la réflexion et de vous dire, voilà, on s'est dit pas mal de choses, vous y réfléchissez et puis vous voyez comment est-ce que... Parce que là, je pense que ça vous demande un peu de temps de réflexion. Sinon, si vous me dites, oui, je me sens prêt demain à avancer, j'aurais tendance à vouloir vous poser la question, alors demain, qu'est-ce que vous envisagez de faire ?
Eh oui, bonne question. Que j'ai envie de faire? Pas grand-chose, puisque je n'ai, pour moi, la façon où j'ai l'impression que je ne peux vivre qu'en étant éloigné. Voilà, comprenez, c'est là où c'est contradictoire avec effectivement une volonté de réconciliation.
Eh oui.
Mais qui m'amènerait à quoi? Puisqu'au final, je pense que les faits sont toujours les mêmes et ils voudront toujours avoir cette position dominante où ils veulent essayer de toujours tout contrôler.
Bah, ça vous aiderait déjà à moins culpabiliser.
Et je culpabilise justement parce que je me dis, suis-je en droit de prendre du recul, de m'éloigner d'eux et de couper les ponts, pas vraiment dans le sens où je continuerai de téléphoner lorsqu'il y a un anniversaire, mais sans plus. Dernière conversation téléphonique que nous avons eue, elle a duré moins d'une minute parce que je n'avais pas envie de parler, quoi qu'il en soit. Et néanmoins, il reste la problématique des petits-enfants, pour lesquels, encore une fois, ils ne font pas d'efforts. Ils ne cherchent pas à venir les voir. Comme je le disais hier, nous n'habitons pas dans la même région, mais à aucun moment, alors qu'ils voyagent partout en France, ils sont capables de le faire.
Oui, bien sûr.
Jamais ils ne chercheront à venir nous voir, nous, et voir mes enfants. Si tant est que j'arrive à faire l'impasse sur le reste, je dis là-dessus, sur les enfants, non. Ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à accepter.
Là, c'est un peu la... On n'est pas sur du vertueux, là. Hein. C'est la spirale infernale. Donc, s'il n'y en a pas un qui décide de décliquer tout ça, ça peut durer des années et des années.
Ouais.
Encore une fois, à vous de voir, vraiment.
Et c'est là que je me dis, dans le futur, hein, puisque prenant de l'âge, ils ont quelques problèmes de santé, le jour où l'un viendra à disparaître, si tant est que je n'ai pas renoué, comment est-ce que je percevrai la situation à ce moment-là? Est-ce que je m'en voudrais toujours?
Certainement, vu que vous culpabilisez déjà.
Oui, c'est quand même un cycle infernal, oui, où je culpabilise parce que, mais d'un autre côté, ils me font encore culpabiliser.
Il faut en parler.
Ils ne l'ont pas. Hein? Ils ne l'ont pas avec leurs autres enfants. Ouais. Et quelque part, je me suis éloigné également des frères et sœurs parce que je ne sens plus non plus de. Je ne sens plus rien. Et mon angoisse, comme je le disais hier, c'est que j'ai une propriété à 13 km précisément de chez eux et je ne me sens pas bien en allant chez moi parce que sachant qu'on est proches les uns des autres et qu'à un moment donné, je pourrais être confronté, les rencontrer.
Donc dans ces cas-là, vous n'en avez plus envie, c'est que là, il y a peut-être besoin.
Non, je ne ressens pas le besoin de les voir. Étant donné que j'ai aucune empathie, je ressens pas ce besoin de les voir. J'écoutais avec passion les gens qui effectivement ont ces rapports fusionnels avec leurs parents, mais je les envie ces gens-là.
Dominique, demain vous écouterez l'émission en podcast, s'il vous plaît. Je vous ai donné plein de clés.
Absolument, oui.
Et notamment celle de les accepter comme ils sont. D'accord ?
Oui. Et donc.
Et donc dès demain, vous réécoutez.
Qu'est-ce que je fais ?
Et vous en. Voilà. C'est exactement ça.
Je crois que tout est dit.
Oui, je crois aussi.
Oui. Oui, puisque les choses sont posées. Vous m'avez apporté quelques éléments de réponse. Je fais de la sophrologie pour essayer de me reconcentrer sur moi-même. J'ai la chance, mais ça je ne l'ai pas encore dit, c'est d'avoir une épouse qui est admirable et qui sait me ramener à la réalité des choses et à me ramener à mes priorités.
Et moi je suis obligée de vous ramener à la réalité. Je dois malheureusement vous souhaiter une bonne soirée parce que j'ai d'autres
auditeurs également. Absolument, vous m'avez bien aidé. Je laisse à chacun le plaisir de vous parler.
Merci beaucoup, vous. Dominique. Je vous embrasse.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Europe 1, la libre antenne.
Sana Blanger. Pour joindre Sana Blanger, appelez le 3921.
50 centimes la minute.
Je rappelle la thématique de ce soir qui est l'échec. Comment avez-vous réagi face à l'échec ? Que vous est-il arrivé ? Qu'en avez-vous appris ? Tout de suite, nous accueillons notre prochaine auditrice qui est Flora.
Oui, bonsoir. Donc je vous appelle parce que je vis actuellement une situation d'échec professionnel et j'arrive pas à voir les choses de manière positive et constructive pour moi. Oui. Donc j'ai besoin un peu d'explications et de conseils.
Bien sûr.
Donc voici la situation. Donc dans le cadre d'une réorganisation de service, je travaille depuis peu en binôme avec une nouvelle personne et je me rends compte qu'elle a sûrement plus de compétences que moi. Qu'elle comprend plus vite, qu'elle a meilleure capacité de synthèse. Je vois qu'elle panique pas à la moindre difficulté. Les propositions qu'elle fait pour améliorer les procédures que j'ai moi-même mis en place avant qu'elle n'arrive. Donc ces propositions sont pertinentes. Et donc, en fait, avant qu'elle arrive, j'avais un peu la tête dans le guidon et j'avais pas le temps d'améliorer tout ça. De manière correcte, quoi. Et donc, face à elle, je ressens, je me sens en échec, je ressens de la compétence, un sentiment d'infériorité, de la honte, de pas pouvoir faire preuve d'ouverture, de capacité à accepter ce qu'elle peut m'apporter. Donc,
Ah oui, ça.
Donc
ça...
voilà, je suis un peu.
Ouais, ça fait beaucoup pour une seule personne.
Oui, ça fait beaucoup. Oui.
Mais oui, qu'est-ce qui se passe ? C'est. Alors, cela fait combien de temps déjà que vous êtes sur ce poste ?
Moi, ça fait presque 10 ans.
10 ans ? Donc, c'est 10 ans sur ce poste et dans l'entreprise, 10 ans également ?
Oui.
D'accord. Donc, elle est arrivée il y a combien de temps très exactement ?
Il y a moins d'un mois.
Moins d'un mois. D'accord. Mmh.
Mais bon. Elle est déjà très sûre d'elle, voilà, c'est pour ça que ça me fait peur en fait.
Mais oui, c'est ça en fait. Vous avez dit le mot. Elle vous fait peur. Elle
oui,
vous fait peur
ça, oui.
Parce que probablement déjà, elle bouscule vos habitudes. Peut-être étiez-vous dans une zone de confort, ma chère Flora.
Oui.
Dans vos habitudes.
Ouais.
Eh oui. Est-ce que vous savez quelle est exactement l'objectif de l'entreprise d'avoir créé ce binôme, puisque vous parliez de réorganisation. Est-ce qu'on vous a informé de la raison pour laquelle, à l'avenir, vous alliez travailler en binôme?
Oui, c'est pour que je ne sois pas toute seule à faire ce que je fais et que en cas d'absence, quelqu'un puisse prendre le relais, qu'il puisse y avoir une continuité, en fait.
D'accord. Donc vous, par rapport à votre poste, vous êtes sereine. Vous n'avez pas le sentiment qu'elle vient vous prendre, entre guillemets, ce poste.
En fait, si, j'ai ce sentiment-là. Parce que la difficulté, c'est que les 5-6 premières années, j'étais sereine. Et ensuite, on m'a mise une stagiaire à former.
Oui.
Donc, à former pour qu'elle devienne
votre binôme.
Mon binôme.
Voilà.
Mais sauf qu'elle partait de zéro, quoi. Et j'ai pas réussi, puisque elle partait de très loin, quand même. Moi, j'avais un bagage professionnel et des études qui n'étaient pas les mêmes qu'elle. Et donc, elle est partie. Et ma hiérarchie m'a moitié reproché de manière pas forcément directe, mais de pas avoir réussi à former cette stagiaire. Donc depuis, j'ai perdu confiance en moi.
D'accord.
Et après, il y a eu une surcharge de travail importante donc qui pesait sur moi. Et après, je me suis arrêtée à cause de cette surcharge. Et quand je suis revenue, on m'a enlevé la mission que je préférais. Ah. Et ensuite, il y a eu cette binôme qui vient d'arriver. Et donc, avant qu'elle n'arrive, j'étais déjà en fragilité.
Absolument.
Et le fait de l'avoir, elle, très sûre d'elle, un peu comme j'étais quand je suis arrivée dans l'entreprise, j'ai plus ma place et je panique et voilà.
Alors, ce qui est important déjà, c'est de retrouver confiance en vous.
Ouais, mais j'arrive pas en fait. Ça fait des semaines que j'essaye et je sais pas par quel bout prendre les choses.
Alors, vous disiez déjà que vous aviez souvent des moments de panique parce que vous étiez surchargée de travail. Donc, on peut imaginer que ce binôme est arrivé pour vous alléger dans vos tâches quotidiennes.
Oui.
Déjà, premièrement. Ensuite, vraiment, j'ai le sentiment que tel que vous présentez votre binôme, cette perte de confiance en vous, elle vient peut-être du fait que cette personne est opposée sur le plan comportemental par rapport à vous. Tel que vous décrivez, elle a l'air plutôt fonceuse, rapide, vous parliez de pertinence, ça va vite.
J'aimerais être comme elle.
D'accord.
Mais sauf que.
Mais
sauf que. Et peut-être que au tout début que j'étais là, j'étais peut-être comme ça, mais après, toute l'histoire fait que je suis là aujourd'hui. Et finalement, je me dis que j'aimerais bien être comme elle. Voilà. Mais
alors,
que j'arriverai pas.
On ne change pas. D'accord. Sur le plan, sur le plan comportemental, on ne change jamais. Ce qui est important, c'est de voir ce binôme, non pas comme un esprit de compétition à vous dire, j'aimerais bien être comme elle, mais au contraire, plutôt sur la complémentarité. Vous avez déjà observé quelles sont ses forces. Elle va vite, elle est pertinente. Moi, je suis certaine, Flora, que vous êtes quelqu'un d'extrêmement impliqué déjà et appliqué. Je vous ressens comme une personne faisant très attention à la façon dont vous allez travailler, que vous y allez par pas à pas, de façon méthodique, avec, vous savez, ce côté très pointilleux, détail. Alors que elle peut être beaucoup plus dans le côté un peu plus pushy, comme on dit, un peu plus force de proposition.
Elle est très très pointilleuse aussi. Et peut-être
d'accord.
Même parfois
un peu plus
que moi, et je me dis mais c'est l'horreur si elle est plus pointilleuse que moi.
C'est pas une horreur, hein. Il en faut des gens comme ça. Maintenant, c'est vrai que ça peut paraître un peu froid. On se dit, waouh, c'est des machines.
Oui, voilà, ouais.
Hein? Il y a un côté un peu froid, oui. Donc machine. Alors que vous, peut-être qu'au contraire, vous êtes plus tourné vers la bonne ambiance, on travaille, l'esprit d'équipe.
Non, je veux être très performante. J'en fais beaucoup pour ça et en fait, j'arrive pas au résultat que je voudrais. Et elle, bah, ça a l'air d'être facile pour l'instant pour elle. Je me mets en compétition face à elle. Alors j'essaye de pas le montrer, bien sûr, mais dans le fond, c'est ça.
Ouais, c'est...
Par exemple, elle réussit à faire faire quelque chose que moi j'arrive pas, ou parce que je m'y suis pas penchée, ou parce que je connais pas. Et ben, je vais pas lui demander. Je vais préférer chercher par moi-même, quitte à ce que ça me prenne beaucoup de temps, pour lui montrer que je sais le faire aussi.
Ah.
Et c'est pas bien ça. C'est pas.
Alors. Non, disons que ce qui n'est pas bien, c'est que vous pouvez perdre du temps, ce qui est le cas. Vous allez chercher toute seule les réponses. Donc déjà, on peut se demander, mais comment se fait-il qu'il y ait des choses que vous ne connaissiez pas ? Peut-être qu'il faut renforcer des connaissances de votre côté, donc en demandant une formation, hein, tout simplement. N'ayez pas peur de ça. Au contraire, hein, faut pas avoir peur quand on ne sait pas. C'est ce qu'on appelle aussi du courage en entreprise. Hein. Alors, quand on est manager, c'est du courage managérial, mais il ne faut pas avoir honte de ne pas connaître, et au contraire. Maintenant, par rapport à vraiment le fait qu'elle va plus vite, vous avez identifié plein de choses, peut-être que ça vaut le coup de se poser toutes les deux et de vous répartir les tâches en fonction de là où vous êtes, je dirais vos zones de plaisir déjà, et là où vous vous sentez la plus pertinente, vous. Chacune. Mmh. Est-ce que vous l'avez fait, ça, déjà ?
Non, bah non, pour l'instant, c'est d'autant qu'elle est là. Donc, pour l'instant, on balaye un peu toutes les tâches qu'il y a à faire. Et je lui montre les procédures. Mais déjà ça, quand je lui montre les procédures, des fois, elle fait des yeux en se disant « Oh, qu'est-ce que c'est lourd !» ou ça mérite de mettre un coup de balai dedans et c'est un peu frustrant parce que c'est des choses qui ont été mises en place et c'est comme ça et quand je vois la tête qu'elle fait, je me dis mince quoi, enfin de quoi elle se mêle, de ça quoi.
Là c'est votre ego.
Oui.
Voilà, c'est votre ego. Non, pensez dans ces cas-là, c'est vraiment penser à l'intérêt de. Alors vous ne dites pas où est-ce que vous travaillez. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre poste ? Sans en dire trop, juste votre poste.
Ben c'est un travail administratif.
C'est un travail administratif. Ouais. Alors, ce qui est bien, c'est que vous avez parlé en introduction de créativité. C'est vrai que quand on est frustré, ça bride la créativité. Il faut parfois accepter que les autres soient meilleurs que nous. Et si elle a de bonnes idées, eh bien c'est dans l'intérêt de votre métier et des personnes qui en bénéficient derrière.
Mais après, au niveau de la hiérarchie, elle va être, elle va avoir toute la confiance de la hiérarchie, c'est-à-dire que quand il y aura un nouveau projet, ce sera elle qu'on le donnera parce qu'elle aura déjà fait ses preuves. Et moi, en fait, je vais disparaître.
Si vous ne réagissez pas, peut-être, effectivement. Donc, vous êtes en droit de vous poser les bonnes questions. Donc, que dois-je mettre en place dès demain pour moi-même participer à la réussite de ce binôme ? Et il est évident que ce n'est pas en restant en retrait que vous allez y arriver. Est-ce que vous aimez déjà votre métier ?
Jusqu'ici, oui, mais oui. De moins en moins depuis que je perds confiance, depuis que je ne maîtrise plus ce que je fais, qu'on m'enlève l'émission que j'aime, qu'on me met avec un binôme, que je me sens moins forte. Là, j'ai l'impression de tout perdre de contrôle et j'ai plus envie de partir qu'autre chose. Mais jusqu'ici, ouais, j'aimais bien ce que je faisais. Hein. Donc, ça remet un peu tout en question, en fait.
Oui, c'est ça. Donc, c'est ce qu'on appelle le changement. Là, vous êtes clairement sur le cycle du changement. Cette personne vient d'arriver il y a un mois et il est vraiment, vraiment important de vous poser toutes les deux et de répartir les tâches en fonction des forces de chacune et des axes d'amélioration de chacune. De créer ensemble. Si effectivement, elle vous fait une réflexion sur un des process que vous avez mis en place en disant « oui, mais bon, c'est peut-être très constructif également. C'est toujours dans l'intérêt. Peut-être que c'est pour gagner du temps. Peut-être que c'est en efficacité. Peut-être que c'est en qualité. »
Bah ouais, mais c'est vrai que c'est mon orgueil qui en prend un coup parce que, ben... Et là, j'ai du mal, quoi. Enfin... Ouais, j'ai du mal à gérer parce que après, ben, quand j'en prends un coup, ben, je me sens nulle et après, ben, ça dérive surtout ce qui est à côté, quoi. Enfin, et je me sens nulle partout, dans tous les domaines après.
Mais ce n'est pas le cas. Oui, alors que ce n'est pas le cas du tout, vous le savez.
Ben, non, j'ai du mal en fait à faire la part des choses.
Bon, alors qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour. Enfin, vous rendre compte que vous n'êtes absolument pas nul. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Ça n'est pas le cas. C'est juste que là, il y a un changement et qu'il faut trouver de nouveaux repères. Donc, pensez à complémentarité avec votre binôme et non pas compétition. Ça déjà, la complémentarité, vous êtes en capacité de pouvoir y arriver. Si vraiment, vous avez le sentiment qu'il vous manque une compétence, parlez-en à votre N+1, votre manager, vos responsables. Dites-leur, ben voilà, avec l'arrivée d'un tel ou une telle, je réalise ou je me rends compte que peut-être il pourrait être envisageable ou intéressant de me former là-dessus. Là, clairement, elle est en train de vous sortir de votre zone de confort, Flora. Donc c'est normal qu'on ressente ça. C'est pas forcément agréable. Mais vous êtes en train de continuer à apprendre et à grandir dans votre fonction. Donc c'est très positif. C'est peut-être pas agréable, mais c'est très positif.
C'est pas agréable,
voilà.
C'est...
D'accord.
C'est dur à vivre en fait parce que voilà, en fait, je me dis si c'est moi qui arrivais dans une nouvelle entreprise que je bousculais les choses, eh ben je le vivrais beaucoup mieux que l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire?
Mais complètement.
Et je comprendrais à la limite pas trop pourquoi les autres n'acceptent pas le changement. Alors que, enfin, ouais, c'est ça qui est bizarre en fait. Si j'étais dans le rôle inverse, ben ça me dérangerait pas. Enfin, donc.
Alors, demain, qu'est-ce que vous envisagez de faire? Avec cette binôme, ce binôme, cette nouvelle collègue qui est pleine d'intentions, qui est très motivée, il y a ça aussi. Hein. Elle est, pour elle, c'est peut-être un poste qui est très important. Est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous avez pris le temps de la rencontrer, cette personne?
Oui, un petit peu, ouais. Oui, on a l'occasion d'échanger. Elle a un parcours, elle est passée par pas mal de postes, donc... Elle a une capacité d'adaptation que j'ai pas. Elle est discrète, elle est efficace quoi. Et,
oui.
Tout bon. Ce que je ne suis plus en fait.
Tout ce que vous n'êtes plus juste là maintenant parce que vous vous sentez fragilisé. C'est tout, c'est juste cela. Mais ça va revenir. Vraiment. Mais ça se construit. Ça se construit, Flora.
Mais
il y a beaucoup de mais, hein. Alors le oui mais, là j'en ai entendu plus de 5, c'est quand on ne veut pas, on cherche des prétextes et quand on veut, on trouve des solutions. Donc là, c'est à vous de voir.
Ben, c'est vrai que c'est un peu imposé et que cette organisation et que... Et que ça me plaît pas en fait, donc mais que c'est obligé de toute façon de passer par là. Donc...
Alors, ce que vous pouvez faire, je vais vous donner un outil qui peut vous aider à analyser la situation. Ça s'appelle un SWOT. S-W-O-T. SWOT. S-W-O-T. En fait, vous verrez sur Internet, hein, SWOT, ça vous permet de voir quelles sont vos forces, quels sont vos axes d'amélioration, quelles sont les opportunités que vous crée ce nouveau binôme et les menaces de ce binôme. Donc, vous faites une analyse vraiment en prenant de la hauteur, hein, ça va vous aider. Mm-hmm. Et vous envisagez tout cela comme si vous étiez une entreprise, comme si vous étiez un projet que vous alliez mettre en place. Donc, ce binôme, et vous faites votre SWOT. Ça vous aidera certainement à y voir plus clair.
D'accord.
D'accord ?
Ouais. Pourtant, quand j'analyse objectivement la situation, c'est très clair pour moi. Sauf que, la situation, elle est très claire, elle est compréhensible. Mais quand c'est subjectif et que c'est moi et que je ramène tout ce que j'ai, et ben c'est là que ça colle pas en fait et que ça bloque. Donc
c'est parce
et
que
je sais qu'il faut que je fasse des efforts, que c'est compliqué, c'est difficile.
C'est nouveau, c'est toujours comme ça quand c'est tout neuf. Restez confiante, d'accord ?
Mais si j'y arrive pas,
vous allez y arriver. Si vous en avez envie. Flora.
Oui.
Je vous souhaite une bonne continuation. Pensez à mettre en place une petite réunion avec votre binôme, vraiment. Faites votre SWOT et échangez avec elle sur vos forces et vos axes d'amélioration chacune. D'accord ?
D'accord, très bien.
Et puis
merci.
Ben j'espère. Et puis vous nous direz ce qu'il en est par la suite.
Oui, d'accord. Merci du conseil. Je vais aller voir ce que
SWOT.
C'est SWOT.
Absolument. Je vous embrasse,
merci.
Laura.
Bonne soirée, au revoir.
À vous aussi, au revoir.
Europe 1,
23h, 1h,
la libre antenne, Sana Blanger.
Sur Europe 1 et vous écoutez la libre antenne. Je vous rappelle que vous pouvez nous joindre en direct au 39 21 ou alors nous joindre également par SMS au 7 39 21 en tapant le mot nuit. Tout de suite, nous accueillons notre prochain auditeur et c'est Christophe. Bonsoir Christophe.
Oui, bonsoir Sana.
Bienvenue à la libre antenne.
Merci. Donc, je suis Christophe, j'ai 46 ans, je vous appelle de Perpignan.
Bonsoir voilà. Perpignan, très belle ville.
Et du coup, je vous ai découvert il y a une dizaine de jours. Et c'était comme une évidence, il fallait que je vous découvre à ce moment-là. Donc déjà, j'ai trouvé que vous aviez une voix magnifique, c'est fait, je vous le dis.
Merci,
et tant par le timbre que par les propos en fait, que par le fond comme on dit.
Merci beaucoup.
Oui, parce que moi j'y suis très sensible, j'ai été télévendeur, je suis tombé amoureux d'une personne à une époque. Il y a eu une époque où je suis vraiment tombé amoureux d'une personne uniquement par les échanges téléphoniques. Donc c'est quand même assez fou, donc c'est vrai que j'y suis sensible et quand j'ai... En fait, depuis que je vous ai rencontré, j'ai écouté tous les podcasts, toutes les émissions, j'ai écouté hier en direct, voilà. Donc, je suis fan.
Merci beaucoup.
Voilà. Je vous en prie. Et en fait, je vous appelais. Bon, alors, ça correspond... Finalement, j'avais tenté de vous joindre hier.
Oui.
Mais finalement, ça va correspondre, je pense, avec le thème de la soirée.
Oui, oui.
Parce que, justement, je l'ai vécu peut-être comme un échec. Je voulais en discuter avec vous, justement, savoir si c'était bien ou pas. Alors, ce qui m'arrive, c'est qu'en fait, je viens de subir une rupture dans ces 15 derniers jours. C'est pour ça que je dis que c'est tombé, vraiment, je vous ai rencontré peut-être 2-3 jours après le moment critique, panique, ouais. L'angoisse, hein, parce que ça a été assez violent. Donc, du coup, oui, avec ma compagne, donc ça faisait 18 ans qu'on était ensemble,
oui.
18 ans et demi. Et du coup, ben en fait, elle m'a appris que ben ça a été assez dur par texto, en fait, puisque je l'ai un peu poussé dans ce retranchement.
Oui.
Et du coup, ben elle m'a dit, bon, ben, vu que, en gros, tu me tends la perche, voilà, j'ai bien réfléchi finalement, j'ai pris la décision, je suis vraiment désolé, mais... Mais en fait, voilà, notre histoire va s'arrêter, quoi. Donc, c'est vrai que c'est... Et elle m'avait dit, d'ailleurs, qu'elle comptait me prévenir dès son retour, puisqu'elle était partie dans sa famille pendant une quinzaine de jours, qui était dans une région assez proche.
Ouais.
Et donc, voilà, tous les mois, elle remontait, passait une semaine, 10 jours, 15 jours. Et donc du coup, bah je l'ai un peu poussé et voilà c'est et du coup elle a saisi la perche quoi. Sinon elle m'avait dit que j'avais prévu de te le dire dès mon retour. Enfin elle voulait pas faire ça ni au téléphone ni par SMS encore moins.
Oui oui.
Et bon ça, donc du coup ça s'est fait malencontreusement comme cela. Et c'est vrai que du coup, ben moi, je l'ai vécu comme... bon, ça a été violent, hein, c'était hyper violent pour moi, mais c'est surtout que je l'ai vécu comme un échec.
Christophe, parce que vous aviez senti le vent tourner ou vraiment
Oui, alors ces dernières années, on a eu plus... Oui, il y a eu en 2014, il y a eu une de sa part, puis finalement on n'a pas réussi, finalement à se quitter, puis finalement ça a été de ma part en 2016 ou 2017.
C'est précis.
Et puis pareil, j'ai pas réussi à la quitter parce que quelque part, il y avait quelque chose d'assez fort entre nous, quoi.
Oui.
Et là, je sais qu'elle était pas bien depuis quelques mois. Elle me le disait. J'avais du mal à l'entendre, en fait. Je l'entendais, mais je ne réagissais pas. Donc, il a fallu qu'il y ait ce qui se passe là pour que vraiment je me dise, mince, je suis passé à côté, en fait. J'ai pas su prendre l'intensité, on va dire, de son état, en fait. Pour moi, bon, ben, elle n'était pas forcément bien. On vivait une situation qui était un peu compliquée puisqu'on a été obligés, nous aussi, de changer de département, de région.
Oui.
Et donc, on n'était pas forcément dans un... L'environnement n'était pas forcément favorable.
Propice.
Et j'aurais peut-être... Oui, exact. C'était plutôt même l'inverse puisqu'on avait un peu l'impression de régresser puisqu'on... On a été contraint de revenir à l'endroit où on avait vécu pendant 15 ans, alors qu'on était bien là où on était reparti.
D'accord.
Oui, c'est un peu compliqué, mais et j'aurais peut-être pu, moi aussi, bouger plus rapidement, essayer de faire évoluer les choses, etc. Et du coup, voilà. Donc, bon, après, c'est vrai que moi, je
Christophe, l'ai pris, vous en parlez comme si ça y est, c'était fini vraiment?
Alors justement, ce qui s'est passé en fait, c'est que dès que j'ai reçu son texto, en fait, je lui ai répondu de suite. Hein,
ouais.
Je l'ai senti comme la vraie rupture cette fois-ci. C'est-à-dire que pour moi, son texto, il était vraiment incisif, il était clair, il était carré, il était sans retour. Donc, alors moi, j'ai essayé de discuter avec elle, de lui dire, mais puisqu'on a toujours été dans la, surtout elle. Alors moi, j'ai plus de mal à m'exprimer, enfin, à exprimer mes sentiments. J'ai plus de mal à communiquer, mais par contre, elle, au contraire, elle a toujours, c'est ce qui fait qu'elle est fabuleuse à ce niveau-là, c'est qu'elle va toujours chercher la discussion. Et c'est là où j'ai été très surpris, et je lui ai dit, mais comment c'est possible, puisque c'est pas toi, en fait. D'habitude, tu es celle qui aurait cherché à discuter, à voir, avant de prendre une décision. Et là, elle ne m'a même pas prévenue, en fait. En vérité, elle est partie. Au lieu d'aller dans sa famille, elle est allée dans un hôtel pendant 2 jours.
Ah oui.
Et elle a fait le point, parce qu'elle n'en pouvait plus. Elle était en saturation totale de sa vie, de tout. En fait, il y a énormément de choses qui n'allaient pas dans sa vie. Il faut savoir qu'elle est fibromyalgique aussi, donc ça n'arrange pas les choses.
Vous voulez bien rappeler à nos auditeurs de quoi souffre votre...
Oui, alors la fibromyalgie, c'est une, oui, c'est vrai que je... c'est une maladie qui touche au niveau des muscles et des nerfs, d'après ce que j'en sais, en fait, et qui lui procure des douleurs dans le corps assez intenses. Bon, alors, elle a été diagnostiquée il y a quelques années. Sa mère, par contre, l'est depuis très longtemps et à un stade très, très avancé. Oui. Elle, par contre, c'est très handicapant. Bon, donc c'est vrai que on va dire que l'ensemble n'était pas très favorable. Par contre, moi, c'était un peu l'inverse. C'est-à-dire que j'ai eu un grave accident il y a 2 ans, un grave accident de voiture, où j'ai failli soit être tétraplégique, soit être mort. Donc j'ai eu énormément de chance de m'en sortir.
D'accord.
Je m'en remets actuellement, là, physiquement. J'ai quasiment récupéré 100% de mes facultés. Mais cet accident, par contre, puisque j'ai été 6 jours dans le coma, j'ai eu une vertèbre cervicale fracturée, énormément de... Ça a été vraiment très violent. Et finalement, ça nous a rapprochés. Ça nous a rapprochés parce que ça a été difficile pour elle, puisque moi j'étais immobilisé pendant 6 mois avec un corset, une nerve, etc. Bon, j'avais des infirmières qui venaient à la maison, etc. Mais c'est vrai que c'était pas facile. Mais elle a pris conscience que la vie pouvait s'arrêter. Donc du coup, ça nous a redonné un second souffle.
D'accord.
Finalement, on était dans une vie, c'est vrai, assez... plutôt tumultueuse, parce que même les gens qui nous connaissaient, pour eux, c'était pas étonnant. Ils nous disaient, c'est incroyable, un jour, vous pouvez plus vous supporter, et le lendemain, vous êtes amoureux comme le premier jour. Quoi.
Oui, vous employez l'imparfait, donc effectivement, vous aussi, j'ai le sentiment que vous avez tourné la page aussi. Hein.
Je lui ai dit, écoute, dès le départ, évidemment, après avoir eu énormément de communication, on a parlé, nuit blanche la première nuit, pour moi, puis après discussion pendant toute la journée, etc., oui. Donc soit par texto, soit par téléphone, etc. Et je lui ai demandé, après avoir essayé de comprendre pourquoi elle était arrivée à ce niveau-là, et pourquoi on en était arrivé à ce niveau-là, j'ai essayé de lui dire, écoute, tu es en train de me dire que là, tu es à un stade où ça va pas. Donc j'ai dit, écoute, est-ce que tu crois pas que si tu es dans cet état-là, justement, c'est peut-être le moment de souffler, de prendre du recul, de prendre des vacances, plutôt que de prendre une décision ferme, définitive, qui va tout balayer, qui va balayer 18 ans de vie commune, les projets qu'on avait en cours, parce que moi j'avais des projets.
Vous n'avez pas d'enfant?
Non, pas d'enfant. Non. Ça a été un choix. C'était un choix commun, en fait. Ouais. Donc, Et du coup, c'est pour ça que j'en parle imparfait, parce que je lui dis, par contre, je lui dis, écoute, essaie de. Puisque là, elle va se retrouver. 3 ou 4. En fait, elle a retiré ses affaires hier, en fait. Elle est venue déménager, l'ai aidé à déménager. Tout est reparti dans la région où est sa famille.
D'accord.
Dans le Tarn, en fait. Et c'est pas très loin, mais. Et du coup, elle me dit, parce que je lui dis, mais attends, si tu n'es pas sûr, moi j'ai de quoi stocker, il n'y a aucun problème, etc. Elle m'a dit, non, je préfère que mes affaires soient avec moi, quoi qu'il se passe, on verra par la suite, etc. Donc. Je lui ai dit, écoute, dans ces cas-là, vu que tu es dans cet état-là en ce moment, plutôt que de tout balayer, je lui ai dit, peut-être il serait temps de souffler et de reconsidérer les choses et peut-être tout simplement de pas fermer la porte. Donc je lui ai demandé, je lui ai dit, écoute, ne ferme pas forcément la porte, quoi. Peut-être que dans 15 jours, 3 semaines, tu te rendras compte ou tu auras envie ou tu te diras que peut-être... le fait d'aller mieux, enfin je sais pas, mais
vous avez très bien fait. Oui. Vous avez très bien fait, oui. En fait. Alors
J'avais pas trop le choix. Je pense que j'avais pas trop le choix, en fait. Mais
vous êtes encore amoureux, ouais. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Vous l'aimez
encore? Oui, ben, franchement, oui, parce que moi, même s'il y a des choses qui n'allaient pas, moi, pour moi, c'était mon âme-sœur. On devait, enfin, pour moi, on pouvait continuer de vivre, alors en améliorant les choses, mais et surtout en changeant de contexte, enfin, de lieu physique, etc. Puisque moi, j'avais un projet de construire une maison, on avait un projet de. On avait commencé, voilà, j'étais en recherche d'un bien, d'un terrain ou d'un bien immobilier à rénover dans le tas. Et depuis un an, et on a eu beaucoup d'échecs. Et du coup, elle m'a dit, ouais, mais est-ce que tu vois, est-ce que finalement on n'y arrive pas depuis un an? S'il faut, c'est que ça doit pas se faire. Alors, je me suis dit, c'est pas possible. On peut pas se raccrocher à des petits détails. Finalement, c'est pas parce qu'on n'arrive pas sur une durée ou c'est pas parce qu'il y a quelques échecs, finalement on doit se dire bon ben oui.
Une question qui fâche un peu.
Oui.
Est-ce que
oui.
A-t-elle rencontré quelqu'un d'autre?
C'est ce que je me suis dit. Non, pas du tout apparemment.
Non.
Elle a non justement. Elle a, alors moi je suis quelqu'un de très fidèle. J'ai jamais trompé une personne avec qui j'étais. Et elle, je pense qu'on a les mêmes côtés là.
Oui, d'accord.
Donc, ça a été tellement soudain que je me suis posé la même question que vous venez de me poser. Et je me suis rendu compte que des fois, elle était en train de discuter sur son téléphone, etc. Alors, avec des gens avec qui elle partage un jeu en commun, moi aussi. Et en fait, elle m'a confié qu'elle discutait en privé avec quelqu'un avec qui elle s'entendait très bien, avec qui elle avait des atomes crochus. Et je lui dis, mais est-ce que tu crois qu'il y a plus ou... Enfin, elle me dit, non, pas du tout. Elle me dit, j'ai bien conscience que non. Mais est-ce que c'est un déclencheur aussi de se dire, tiens, j'arrive à mieux communiquer ou j'arrive à avoir des affinités avec quelqu'un d'autre? Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle m'a un peu dit. Elle m'a, à force de discuter avec elle, elle m'a fait entendre que... Elle m'a dit, écoute, j'ai 45 ans, en gros, si je dois refaire ma vie, c'est maintenant, après, ça va être trop tard,
donc, j'ai envie d'avoir... Disons qu'à votre connaissance, elle n'a rencontré personne d'autre, à votre connaissance.
Non,
voilà.
Non, mais apparemment, non, je ne pense pas.
Alors, quand je vous dis que vous avez très bien fait de lui laisser une porte ouverte, c'est parce qu'en fait, d'un point de vue comportemental, il a été vraiment très clairement identifié que dans un couple, tous les trois ans, il y a une baisse pas de régime, mais en tout cas d'intérêt. On est sur des cycles de trois, en fait. Et là, vous me dites qu'au bout de 18 ans, y a une crise, une très forte crise, voire une séparation. Alors, j'ai envie de dire que vous êtes dans la normalité de ce qui a été démontré sur le plan en neurosciences.
Oui.
C'est parfait, un couple, c'est trois ans.
Oui.
Très fort. Et puis au bout de trois ans, on tombe amoureux. Donc pas avant, Avant, c'est l'attachement.
Oui, ça d'ailleurs, je l'avais entendu dans une de vos émissions, justement, ça m'avait bien marqué parce que vous aviez dit que le véritable amour, l'amour était au bout de trois ans. Avant, c'était de la passion, de l'attirance.
Voilà.
Oui, tout à fait.
Donc il y a de l'attirance, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais l'amour véritable démarre au bout de trois ans. Et effectivement, tous les trois ans, eh bien en fait, il y a... une baisse de motivation, une baisse d'intérêt. Et d'ailleurs, je peux même vous dire qu'il se passe exactement la même chose sur le plan professionnel. Donc si chacun regarde dans son rétroviseur, même professionnel, en fait, nous ressentons tous le besoin d'aller voir ailleurs, si je puis dire sur le plan professionnel, de se dire, mais est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs? Au bout de trois ans, à partir de deux ans et demi, trois ans. Bon, là, en fait, vous êtes clairement sur... une crise de couple. 3, 6, 9, 12,
15
et 18.
Voilà. Tout à fait.
Donc là, c'est vraiment... maintenant, ce qui n'est pas bon signe, c'est qu'elle ait pris ses affaires.
Oui.
Quand une femme quitte le nid, si je puis dire, c'est pas forcément...
C'est pas évident.
C'est pas évident.
Alors après, elle avait en projet, elle a en projet de retrouver du travail ou de faire une formation, mais dans une autre région, ni celle où je suis, ni celle où se trouve sa famille, vous voyez. Donc elle m'a dit, moi j'ai vraiment besoin de changement, j'ai vraiment besoin là, au jour d'aujourd'hui, voilà, de reprendre ma vie en main, de sortir de ma zone de confort, elle m'a dit, parce que là, elle me dit, la vie que j'ai avec toi, finalement, elle est assez confortable, parce que ouais, c'est vrai que moi, je me fixé des objectifs que j'ai atteints, donc j'ai une vie qui est assez agréable. Mais du coup,
pépère, quoi. C'est une vie pépère.
Voilà, elle se sentait peut-être elle se sentait pas elle peut-être le fait. Elle m'a dit clairement, j'ai envie de d'y arriver moi-même, même si je sais que ça va être difficile, même si je sais que ça va être de me retrouver seule et de devoir assumer la vie quotidienne, etc. Les factures, tout. Elle m'a dit, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de de m'affirmer, peut-être, de redémarrer, de montrer que ni toi ni ma famille sont des, comment, comme des sécurités, quelque part. Ouais.
C'est sa crise à elle.
Oui, c'est ça. Moi, j'ai vécu un peu comme ça, comme une genre de crise, peut-être, de panique.
Elle travaille ? Elle a un poste ?
Non. Non, justement. Ah, oui, ça fait un an et demi qu'elle ne travaillait pas, en fait.
18 mois.
Donc là, elle arrivait au moment où il fallait absolument qu'elle m'a dit, là, il faut absolument que je...
Il y a un cumul, là. Christophe, il y a un cumul. Il faut savoir que tous les 10... Enfin, après une perte d'emploi ou une inactivité, en fait, au bout de 18 mois, nous ressentons tous une déprime. C'est encore une fois vraiment physiologique, tout ce que je vous dis. Donc, si on fait 18 mois d'inactivité plus 18 ans de couple, où en fait, on est sur vraiment le bas, de ce cycle, c'est normal qu'elle se sente comme ça. Donc sa réaction,
C'est exactement ça, Sana, parce qu'elle me l'a dit. Elle me l'a dit. Je suis arrivé à un stade. Elle me dit, je suis pas vraiment en dépression, mais elle m'a dit, oui, je suis plutôt déprimée. Elle me l'a dit. Elle m'a dit, j'arrive à un stade où c'est vital pour moi. Il faut absolument que je le fasse, parce que sinon, elle m'a dit, j'ai déjà touché le fond. Et donc elle me dit, il faut que j'arrive à rebondir, à repartir. Et bon, alors c'est difficile parce que...
On se dit, mais mince, je suis un peu le dommage. Il y a des dommages collatéraux et vous en faites partie, en fait.
Oui, mais ça, à la limite, j'ai compris sa situation, donc je lui ai dit, écoute, là, ce qui est important aujourd'hui, c'est que tu sois heureuse. Alors bon, après, c'est vrai qu'il y a le paradoxe, l'envie de tout essayer, de tout tenter pour essayer de faire que peut-être on puisse avoir une nouvelle chance ensemble.
Mais bien sûr, mais dites-lui. J'espère que vous lui gérez. Ah mais oui.
Je lui ai dit. Mais après, il y a aussi le fait de se dire que est-ce que je dois pas la laisser par amour, justement, la laisser partir, la laisser vivre autre chose. C'est pas assez compliqué. Hein.
D'où laisser une porte ouverte. Alors, nous avons reçu un SMS d'un auditeur. Alors, je précise aux auditeurs que si vous ne mettez pas vos prénoms et vos numéros de téléphone, en fait, nous, on ne peut rien dire, hein, hormis juste les lire. Donc, ce qui est écrit en texto n'est pas inscrit dans le marbre. Peut-être qu'en lui laissant du temps, elle reviendra. Faites-le mort pendant quelque temps, même si c'est douloureux, et voyez ce qu'il se passe. Bonne chance. C'est un peu le fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Hein, c'est un peu
ça. Oui, tout à fait. Mais de toute façon, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, écoute, j'ai bien compris. J'ai bien compris, en fait, mais c'est vrai, hein, c'est pas uniquement pour la reconquérir. Hein. Je lui ai dit, écoute, j'ai vraiment compris tout ce que tu m'as dit. J'ai fait le point sur moi-même aussi. J'essaie de me remettre en question sur les erreurs que j'ai commises, sur les choses que je t'ai dites que j'aurais pas dû. Bon, alors elle m'a dit, ça sert à rien de t'auto-flageller. Elle m'a dit, ça ne vient pas de toi. Elle me dit, au contraire, ça vient de moi et j'en suis désolé. Elle me l'a répété plusieurs fois. Elle m'a dit, elle m'a dit, je lui ai dit, écoute, je lui ai demandé aussi de me pardonner. Je lui ai dit, avant tout, je lui ai dit, écoute, pardonne-moi de ne pas avoir été là pour toi, finalement, ou d'avoir entendu, ou avoir été peut-être plus compréhensif ou quoi. Elle m'a dit, non, elle m'a dit, tu étais tout à fait pardonné. Elle m'a dit, puisque là, en fait, ce qui s'est passé, c'est passé, mais c'est que là, voilà, j'en suis à ce stade-là, quoi.
Christophe, qu'est-ce que vous envisagez de faire demain ?
euh, Ben bon, je sais qu'elle m'a dit, écoute, moi j'ai pas envie que tu. Elle m'a dit, je ne veux pas que tu m'attendes, je ne veux pas que tu perdes ton temps, je ne veux pas que tu risques de passer à côté d'une occasion, quoi que ce soit. Donc, elle m'a dit, considère-toi comme quelqu'un de célibataire. Mais c'est un peu compliqué, hein. Et d'un autre côté, elle m'a dit, elle m'a tenu le discours inverse, puisque finalement, entre le moment où elle est revenue le dimanche, pas ce dimanche-là, le dimanche d'avant, et le samedi, et donc hier, pardon, oui, hier, où elle est partie, elle est partie, hein, donc avec ses affaires, son frère qui est venu l'aider à déménager et elle qui est partie. On a quand même eu le temps de passer quelques jours agréables. Moi, j'ai tenu à ce qu'on passe quelques jours en me disant, s'il faut, ce sera peut-être les derniers, en tant que couple, hein, peut-être même en tant qu'individu, je ne sais pas, parce que je me suis dit, après tout, bon, si vraiment c'est terminé, ben, ça sera, si c'est son choix, de toute façon, au moins, moi je lui ai dit, et elle m'a dit la même chose, elle m'a dit, je lui ai dit, au moins que tu restes ma meilleure amie, quoi. Je lui ai dit, parce qu'on ne peut pas effacer 18 ans, on ne peut pas être âme-sœur. Ouais. On était vraiment âme-sœur. Et moi, alors elle m'a dit, mais il n'y a aucun problème. Elle m'a dit, au contraire, d'autant plus que moi, par rapport au premier auditeur, je crois Dominique, moi aussi, je viens d'une famille dont les rapports ont été très compliqués.
Ouais.
Mais vraiment très compliqués. À tel point qu'aujourd'hui, bon, les parents sont décédés, mais on est quatre enfants et on ne se parle plus les uns les autres, quoi. Donc, j'ai redécouvert le vrai amour familial dans sa famille. Donc, j'ai été adopté.
Oui, je comprends.
Et puis, j'ai vraiment été adopté dans une famille où tout était merveilleux, où l'amour entre... Voilà, là, c'est vraiment la famille idéale, quoi. Donc, je la perds, elle, mais je perds sa famille aussi. Alors, elle me dit...
Pas forcément. Non, pas forcément.
Non, pas forcément. Oui, c'est ce qu'elle me dit.
Là, déjà, j'ai le sentiment que vous vous quittez vraiment... au-delà de l'amour, mais en bonne intelligence.
Ouais.
Donc, j'imagine que même auprès de sa famille, ça se passera également très bien. Et vous la conservez également, cette famille de cœur, si je puis dire.
Oui, mais après.
Vous verrez après comment... Alors, nous avons reçu un autre SMS de Sylvie qui dit « Ce monsieur est trop insistant auprès de celle qui le fuit à toutes jambes. Il faut tourner la page. »
Oui, c'est une des possibilités. Hein. De toute façon, moi, j'ai été clair avec elle. Au contraire, je lui ai dit de toute façon, là, laisse la porte ouverte, mais... pendant ces trois semaines, je ne t'appellerai pas ou je ne te chercherai pas à te contacter ou quoi.
Oui.
Je lui dis, je te laisse à toi la possibilité de faire, enfin, à ce moment-là, si tu veux, quand tu en ressentiras le besoin ou pas.
Christophe, donnez-vous 3 mois.
Ouais.
D'accord. Dans 3 mois, vous verrez, vous y verrez vraiment beaucoup plus clair. C'est le temps qu'en fait, que les émotions se tassent, si je puis dire. Et en fait, on a une vision beaucoup plus claire par la suite. Mais ça prend 3 mois. Là, pour le moment, ça va beaucoup se bousculer dans votre esprit. Mais vraiment, dans 3 mois, vous y verrez vraiment beaucoup plus clair. Ce qui est important, c'est, si ça se passe bien, de laisser effectivement cette porte ouverte, mais sans trop non plus s'y briser les ailes. Hein. Faites attention à vous, préservez-vous.
Sans trop espérer, évidemment.
Voilà.
Ouais, bien sûr. Ouais. Ben oui, je le conçois parce que... c'est une durée aussi longue, c'est la première fois de ma vie, forcément.
Oui.
Mais le plus long où je suis resté en célibat, c'est quelque chose qui, en tant que célibataire, ça a été 3 mois et demi. Donc, c'est vrai que j'ai jamais trop vécu seul parce que j'ai vraiment ce besoin de partager ma vie avec quelqu'un, en fait. Donc c'est vrai que bon, quelque part je me dis, est-ce que c'est finalement une peur d'être
seule, de se retrouver seule,
ou alors le manque affectif, moi c'est surtout
c'est normal. Allez, un dernier SMS et puis après
oui, bien sûr.
Bon, même si on est bien ensemble, mais Il y a d'autres auditeurs qui attendent.
Je comprends tout à fait.
Mon premier mari, un jour, m'a demandé 2 années de séparation pour oxygéner notre relation. J'ai répondu que je me considérais célibataire de suite. 6 mois plus tard, il revenait. J'ai répondu, ouais. Désolée, pas envie de retourner en arrière. Donc, voilà. Pour le moment, laissez la porte ouverte. Pensez à vous. Ça, c'est très important.
Ouais,
dans 3 mois, vous y verrez beaucoup plus clair. Manifestement, oui. Pour cette femme, hein, c'est 6 mois. Donc, encore une fois, on est sur les cycles. Donc, 2 x 3, 6. Et restez confiant, en revanche. L'amour est universel, mais chaque histoire est unique.
Oui, tout à fait. Oui.
D'accord ?
Tout à fait, oui. Ah, oui.
Je vous souhaite une...
Oui, je vais réfléchir à ça. Mais je vous remercie beaucoup.
Je vous en prie, Christophe.
Et je remercie aussi Oscar, je crois, au standard.
Oui, super l'équipe. Et... Vraiment.
Ouais, il est franchement, lui aussi, on sent qu'il est d'une gentillesse et d'une.
Oh là là, vraiment, il est content là, je le vois, il est.
Ah mais c'est vraiment super.
Oh là, vous lui faites sa soirée, là. Il dab. Oui, il dab là en face, il est heureux. Merci vraiment, un grand merci Christophe.
Merci à vous.
Et bon
merci
courage,
beaucoup pour ce que vous faites. Merci.
Pour joindre Sana Blanger. Appelez le 3921.
50 centimes la minute.
Un grand merci pour tous vos SMS. Et je fais une petite dédicace à Cœur de Loup qui vient également de nous envoyer un SMS pour Christophe. Christophe, si vous nous écoutez, je suis certaine que vous nous écoutez encore. Si vous disparaissez totalement de sa vie pendant 3 mois, les fameux 3 mois, la situation va se renverser. Elle va peut-être ressentir le manque et revenir. Courage et confiance, cœur de loup. Et j'embrasse également Clotilde, qui est une fidèle auditrice et qui nous envoie très souvent plein de liens pour des petits conseils. Donc un grand merci à Clotilde. Nous accueillons tout de suite Julie. Bonsoir Julie.
Bonsoir. Bonsoir Sena.
Bienvenue à la Libre Antenne.
Merci. Je ne sais pas si on vous a dit un petit peu pourquoi j'ai appelé.
Un tout petit peu.
Tout petit peu. En fait, je sors d'une rupture.
Oui.
Ça date d'hier.
Ah.
D'hier. J'appelle pas forcément pour le fait de ma rupture, mais plus pour le fait que ça m'angoisse beaucoup d'affronter ma vie toute seule, quoi.
Je comprends.
Et que j'ai l'impression que je ne sais pas faire. En fait, dès que je suis seule, je ne sais rien faire. Dès que j'ai plus de repères affectifs, finalement, j'ai plus d'entrain et je suis capable de rien faire, quoi. De rien faire.
Ah.
Et, ouais.
Donc, vous avez besoin d'un effet miroir.
J'ai besoin de quelqu'un près de moi, ouais.
Ouais.
Dans beaucoup de choses, en fait, sauf dans ma vie professionnelle, non, je suis très... personne ne se douterait du personnage que je peux être une fois que je suis seule, quoi, quelque part.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Julie ?
Je travaille dans la santé, dans une HAD.
D'accord.
Et je fais de la régulation de soins, donc je suis beaucoup en relation avec des familles de patients ou des patients en soins palliatifs, des choses un peu lourdes quand même.
Oui, donc là, vous êtes en empathie. Vous êtes en empathie.
Qui me plaît.
Oui.
Ouais, ouais. Mais voilà, je suis quelqu'un de plutôt jovial et qui aime la vie. Mais,
oui.
Mais comme, quand je suis seule, je sais pas vivre, quoi.
Eh bien, justement, vous venez de le dire, je suis jovial. Je suis... est-ce qu'on vous considère comme quelqu'un de solaire, Julie ?
Bien sûr. Bien sûr.
Bon. Alors, très souvent, c'est associé au fait que quand on est une personne solaire, on ressent un très fort besoin de reconnaissance, d'amour, d'amitié très forte.
Ouais.
Et c'est vrai qu'être seul, hein, c'est quelque chose qui peut être vraiment mal vécu. Est-ce que vous le saviez, ça ?
Ben, je le sais pas, je le ressens en tous les
voilà.
Cas. Oui, je suis vraiment de ce type, quoi. Ouais, j'aime bien avoir, j'aime bien être aimée, j'aime bien qu'on s'occupe de moi.
Voilà.
Mais voilà, quoi. Pour autant, c'est pas facile. J'ai pas des tonnes d'amis, et puis, mes amis, c'est des gens en couple. Alors, dès que je peux, je les vois, hein, ça me gêne pas.
Ouais.
Mais après, quand je rentre chez moi, je sais pas quoi faire. Et puis, j'ai pas une passion, j'ai pas... Moi, ma passion, ce serait de voir toujours du monde, en fait.
Oui, vous êtes quelqu'un de très sociable, de très relationnel.
Ouais, ouais, ouais,
ah,
ouais.
Oui, vous allez facilement carrément vers les gens viennent vers vous également.
Ouais, ouais, alors ça m'ennuie parce que je dis, je sais de faire tout ça, mais les choses, elles se présentent pas, quoi. Enfin, faudrait aller les chercher, et pour moi, c'est une difficulté, quoi. Quand alors, ça vient à moi, c'est pas difficile, mais quand je dois aller les chercher, c'est une difficulté.
Bon, votre rupture date d'hier. Ça faisait 2 ans que vous étiez avec votre compagnon. Et avant, comment ça se passait sur le plan sentimental?
Bah, de toute façon, ça fait 15 ans que je suis divorcée. Puis quand je rencontre... j'ai jamais fait de longues relations. C'était ma plus longue relation.
15 ans? Et après?
Non, les 2 ans, là, c'était plus longue. Après, c'était des histoires toujours très courtes.
Ah.
Parce que j'avais toujours l'impression que ça irait pas. Je suis assez... je sais pas bien ce que je veux. je romps avant d'essayer quelque part un peu. J'attends pas, quoi. Ouais. J'ai l'impression de ressentir que c'est pas la peine de continuer. Et j'arrête.
Comment vous l'expliquez, ça?
Je sais pas. Peut-être que des fois, j'abandonne avant qu'on m'abandonne, j'en sais rien. Peut-être, là, par exemple, la relation que j'ai eue avec ce dernier, c'était vraiment... j'avais vraiment voulu l'avoir et c'était vraiment... Je me suis dit, c'est le bon. Parce que j'avais senti beaucoup de choses qui nous correspondaient à tous les deux et tout. Bon, après, il y a d'autres paramètres qui ont fait que j'ai rompu. Enfin, on a rompu, mais je pense qu'il a senti que je suis allée rompre, alors il a rompu avant, mais qu'il était peut-être un peu trop décideur, et moi, j'osais pas trop, j'arrivais pas trop à la ramener.
À trancher.
J'arrivais pas à dire non, ouais, parce que je savais que ça lui plairait pas. Alors, je disais beaucoup oui pour lui plaire, et à la fin, ça m'a oppressée.
Eh oui.
Et je l'ai senti, et j'ai dit, et je pense qu'il l'a senti, et du coup... comme c'était quelqu'un de fier, il a rompu avant que je rompe, mais ça m'arrange, quoi.
D'accord. Donc là, en fait, comme vous le disiez, vous n'appelez pas par rapport à cette séparation qui, pour vous, voilà, c'est...
Non.
L'affaire est conclue,
non, non,
si je puis dire.
Non, non, j'en suis soulagée. Ouais, bon, voilà. Je sais que, bien sûr, que ça fait quelque chose. Ça fait 2 ans qu'on se côtoyait, bien évidemment, et c'est quelqu'un que je respecte. Mais c'est surtout à affronter ça, quoi. Fou, là.
Affronter quoi?
Cette solitude.
D'accord. Donc, est-ce que ça veut dire que dès demain, vous allez vous remettre en chasse, entre guillemets?
Non, je crois pas que je vais y arriver dès demain. Non, non. Non. Non, non, j'ai quand même un petit peu besoin de me ressourcer. Non, non.
D'accord.
Je vais pas être dans ce schéma.
Et vous envisagez la suite comment? Alors, la projection que vous feriez de votre... futur compagnon ou de votre vie.
J'aimerais bien que ce soit simple, en fait.
Et si vous commenciez déjà par vous occuper de vous, Julie?
Je crois que je m'occupe de moi, quand même. Mais je m'occupe de moi... je prends soin de moi, je veux dire, je suis coquette. Je prends soin de moi de cette manière. Mais après, là, par exemple, il y a les vacances qui arrivent. Et bah, du coup, je vais me retrouver la semaine prochaine en vacances et je sais pas quoi faire. Et ça m'angoisse, quoi.
Est-ce que vous êtes déjà allée au cinéma toute seule?
Il y a pas longtemps, parce que j'étais en colère contre mon ami. Avec la colère, je suis arrivée.
Eh oui,
quand je suis en colère, je arrive à faire des choses que je fais pas si je suis pas en colère.
Ah oui, tiens, d'accord.
Ouais, ouais, ouais. Au début de ma séparation avec mon ex-mari, je me suis étonnée de plein de choses parce que dans la colère... de vengeance ou de je vais y arriver, quoi.
Ouais.
Mais après, tout est difficile. Partir en vacances toute seule, ça m'angoisse, quoi. J'ai jamais fait ça.
Oh, très joli SMS que nous venons de recevoir. Et bon, c'est allé un peu plus vite, bravo, parce que c'est ce que j'allais vous dire. Mais Bon, apprivoiser la solitude, en faire une amie et devenir une femme libre de ses choix. Votre meilleure amie, c'est vous, celle qui ne vous quittera jamais. Alors, ça n'est pas signé, mais un grand merci. C'est exactement ce que je ne l'aurais certainement pas aussi bien dit. Donc, effectivement, votre meilleure amie, c'est vous. Et là, en fait, sur cette période, retrouvez-vous.
Mais comment je fais ?
Eh bien, justement, les sorties. Vous disiez,
j'ai peur de tout.
C'est-à-dire, comment ça, j'ai peur de tout ?
J'ai peur, ouais, ben, par exemple, si je devais sortir dans ma ville, parce que je vis dans une grosse ville,
ouais.
Ben, ça m'angoisse de me retrouver seule dans ma ville, ça appuie encore plus sur ma solitude. J'aimerais qu'il y ait quelqu'un à côté de moi dans ma voiture. Ou...
Ah oui ?
Ouais, j'aime pas, en fait... J'ai peur de me perdre, j'ai peur de, ouais, de plein de choses, je suis compliquée.
Ah oui, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup
ouais,
de peur.
J'ai beaucoup de peur au niveau de l'orientation, j'aime pas m'éloigner trop de mes périmètres de sécurité. Alors des fois je l'ai fait pas parce qu'au bout de la route il y avait quelque chose qui me faisait vraiment envie, quoi. Mais il faut qu'il y ait quelque chose qui me fasse vraiment envie pour que j'affronte, quoi.
Je comprends. Ou si ça ne vous intéresse
pas. Mais si
on
me dit, va te promener comme ça, pour te promener dans ta ville, eh ben, ça m'angoisse, quoi.
Je comprends. Est-ce que vous avez déjà essayé de comprendre pour quelles raisons est-ce que vous fonctionnez comme ça ?
Ben, je pense que je n'ai pas de repère là où je suis, familiale en tous les cas. Ben, je ne sais pas, hein, c'est moi qui m'analyse. mes frères et mes sœurs ne sont pas là, ils sont dans une autre ville. Il me semble que si j'avais... ces petits piliers autour de moi, je serais plus forte, quoi. Et là, j'ai plus mes parents, j'ai perdu ma maman que j'avais 14 ans.
Oui.
Donc j'ai l'impression de ne pas avoir de force, en fait. Ouais.
Ah tiens. Alors ouais. le fait que vous faisiez vous mettiez en perspective le fait que au travail, au contraire, ça se passait, vous étiez une femme forte, mais vous avez le sentiment qu'une fois sortie, voilà.
Ouais.
Là, c'est vous perdez tout.
Ouais. Ah ouais, carrément.
Et qu'est-ce qui vous manque à l'extérieur que vous trouvez, la force que vous trouvez au travail? Vous la trouvez d'où?
Je suis entourée. C'est que je maîtrise bien mon travail. Que je sais pas. Que je satisfais. Mes passions, mes appels, enfin je sais pas, moi c'est après une fois que je suis ici, plus rien, je veux dire mes enfants sont plus là, donc il n'y a plus rien à agiter, quoi.
Bon,
j'ai pas de but, en fait.
Oui, c'est ça. Non, alors c'est pas de but, mais de sens.
Ouais, de sens.
Vraiment, là, il faut redonner du sens ou donner du sens à votre vie. Quand vous n'êtes pas au travail. Vos amis, où sont-ils ?
Ben, chez eux.
D'accord, en couple. Alors, je vais vous poser une autre question, Julie. Qu'est-ce qui vous ressource dans la vie ?
Ma famille.
Que vous voyez de temps en temps, que vous appelez de temps en temps ?
Ouais. Qui n'habite pas ici, mais je ressens des fois le besoin, voilà, d'être... près de mes frères et sœurs. Pas forcément de mes enfants. Hein.
Oui.
Non, enfin après, je m'entends mieux avec mes enfants, mais je veux dire... ou alors si, j'aimerais que mes deux filles, sans le conjoint, qu'on passe des moments ensemble. Ça me fait du bien. Mes deux filles toutes seules. Mais pas forcément me retrouver avec mon gendre et tout ça, quoi. Ça me ressource pas forcément. Parce que j'ai pas... J'ai plus ma fille à moi, quoi, quelque part, quand je suis... Je le sens comme ça.
En tout cas, ce qui est évident, c'est que si vous voulez vraiment retrouver ou trouver du plaisir et surtout de la confiance en vous à l'extérieur, il est impératif de trouver des sources de plaisir tous les jours quand vous êtes seul. est-ce que vous êtes du type contemplative, donc capable de vous mettre dans un parc et puis d'observer la nature autour de vous, par exemple?
Ouais, bon.
C'est pas votre truc. Qu'est-ce que vous avez envisagé éventuellement comme solution, vous?
Je n'ai pas envisagé, je vois pas. Ou alors, je me dis, déménage, ou rebondis, ou c'est trop lisse, quoi. J'en ai un peu marre d'être toujours impression de végéter, quoi, en fait.
Bon, parce que forcément, après, j'allais vous parler d'associations, de croisières de célibataires.
Ouais, mais c'est du... Ouais, je sais pas.
Bah, c'est
non,
toujours,
mais
c'est
de toute façon, peut-être qu'un jour... Je vais avoir une pulsion qui va... Mais...
Une lumière qui arrive. Oui, en discutant avec des personnes sur quel sens j'ai envie de donner à ma vie demain, mais en étant célibataire. Vraiment.
Oui. Mais en fait, je me rends compte que je ne prends pas de risques.
Et
pas
donc...
beaucoup de risques. Eh ben, que j'ai peur de faire plein de choses et que du coup, ben, je ne vis pas, quoi. Enfin, je ne vis pas, sauf quand il y a des occasions qui se présentent, bien évidemment.
Donc, c'est une peur paralysante.
Ouais. Si rien se présente, je ne vais pas déclencher, quoi.
D'accord. Bon, alors après, si vous avez vraiment envie, sur un point de vue thérapeutique, sans parler de dysfonctionnement, là, hein, c'est juste de vous délivrer de ça. Il y a...
Ouais, je pense que j'ai quelque chose à travailler avec cette peur de me perdre.
Absolument.
Quand je conduis, je mets le GPS, je sors un papier sur Mappy, j'ai toujours peur de me perdre. Et il y a plein de gens qui me disent, mais qu'est-ce que ça peut faire?
Ouais, il y a beaucoup de peur.
Ça fait sens, mais ça m'angoisse beaucoup, ouais.
Bon,
donc c'est vrai que c'est un handicap, ça
voilà.
Se passe aussi beaucoup,
ouais.
La géographie, l'orientation et cette peur, quoi. J'y vais pas d'une manière décontractée. Pour moi, c'est toujours, si je dois aller chez quelqu'un qui m'invite à une soirée, ben le voyage va m'angoisser, quoi. Et le retour aussi.
Un SMS, j'en ai même reçu deux. Pourquoi pas du bénévolat pour trouver des repères dans un collectif Baba Yaga? Et puis le deuxième, il est de Geneviève. Madame, prenez-vous un petit chien qui va vous demander de sortir de chez vous.
Oui, c'est vrai que ça pourrait être, mais bon, après...
Mais là, en fait, c'est de la peur. Il y a de la peur. Donc, avant d'envisager toutes ces excellentes solutions, un grand merci à vous, à Geneviève et Baba Yaga. Peut-être faut-il effectivement creuser et travailler cette peur.
Oui, je pense que c'est beaucoup ça le problème. Oui. Donc, en thérapie, vous dites?
Oui, absolument. Ça peut être une psychothérapie. Et ce que je vous recommande, c'est un psychothérapeute spécialisé en thérapie comportementale et cognitive.
Ah oui.
De la TCC. La particularité, c'est que ça agit sur les conséquences et non les causes. Donc, c'est de la thérapie brève.
Vous TCC qui...
La TCC. Ouais. Vous qui vous ennuyez très vite, manifestement, ça peut vraiment correspondre à la thérapie qu'il vous faut, parce qu'elle est proactive. Donc, on va chercher en vous très vite les peurs et les travailler. Très vite. C'est de la thérapie brève.
Comment ça veut dire quoi, TCC?
Thérapie comportementale et cognitive.
Ouais. Parce que vous voyez, quand... J'avais mes enfants plus jeunes, et ben je suis pourtant partie en vacances avec elles, mais du moment qu'elles étaient avec moi dans la voiture, et ben j'étais forte, quoi, mais toute seule, je suis pas bien.
Ouais.
Ouais.
Autre SMS, la force est en vous, cachée sous des couches de pollution accumulées. Faire un grand nettoyage pour vous retrouver vous-même. Peut-être lire « Comme un vide en moi » de Moussad Nabati. Comme un vide en moi de Moussad Nabati. Julie, de toute façon, moi, ce que je vous invite à faire dès demain, c'est d'écouter l'émission en podcast.
Oui.
Hein, comme ça, vous pourrez déjà vous réécouter. C'est toujours très, très bon moyen d'avancer également. Et puis, voilà, de retrouver donc, cette référence. Ouais. Donc, comme un vide en moi, de Moussad Nabati. Un grand merci pour ce SMS.
Ouais,
et puis,
merci.
Effectivement, la peur n'évite pas le danger. Bonsoir, Lucky Luke. Vous avez raison, la peur n'évite pas le danger.
Non, c'est clair. J'entends toutes vos émissions hein, souvent et je prends note de plein de choses, mais après, ouais. Mais bon, je pense que j'ai l'impression que cette peur, elle est liée à ma solitude en même temps, quoi. Je pense que si j'étais moins seule, j'aurais moins peur. Si je me sentais moins seule, j'aurais moins peur.
Oui, c'est une évidence.
Si j'avais quelqu'un à ma maison qui m'attend quand je prends ma voiture, peut-être que j'aurais moins peur. Parce que quand je rentre, il y a quelqu'un.
Oui, mais là encore, vous vous projetez sur une personne.
Ouais, je sais.
Et oui, voilà. C'est une béquille, là. Mais béquille, vous n'en avez pas forcément... Non, il faut la retirer, parce que vous serez toujours dépendante.
Ouais, mais tout le monde a besoin de voir une béquille, non?
Ça dépend, ça dépend. Mais là, en fait, elle vous paralyse.
Ouais.
J'aime beaucoup, bravo. Ah, le non, prétexte, non, alors ça c'est très fort. Non, mais on a quand même besoin.
Bah si, vous m'avez dit au début, je vous comprends.
Mais bien évidemment que je vous comprends. Je l'avais même dit lors d'une émission, je disais que parfois certaines personnes choisissaient d'être mal accompagnées que seules.
Bah moi, c'est le choix que j'ai fait. Hein.
Eh oui. Donc,
je choisis l'inverse, moi, pardon.
Non.
Puisque je viens de rompre. Oui.
Donc, parfois, certaines
personnes qui mal accompagnées.
Ouais. Eh bien, certaines personnes, parfois, préfèrent être mal accompagnées que seules.
Mmh. Oui, moi, j'aurais pu faire ce choix d'avoir quelqu'un qui m'emmène partout et au détriment même d'une relation moyenne, mais je préfère être seule quand même.
Oui.
Tant pis. Mais après, il faut que je trouve la force.
La force, l'envie, la volonté d'affronter. C'est surtout ça.
Oui.
Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous amorcez quelque chose. Le fait de nous appeler déjà, c'est un bon début. J'espère vraiment que ce sera le début vraiment d'une belle aventure intérieure avec vous-même.
Oui, moi aussi, j'espère.
Ben oui. Donc, le fait de se rendre compte et de commencer à initier des choses, c'est vraiment, je dirais, un très, très bon début.
Ouais. Bon, je vais m'occuper de moi. De toute façon, je n'ai pas le choix.
On a toujours le choix. On a
non,
toujours.
Mais bon, si j'ai envie de profiter...
Oui, c'est exactement ça. En tout cas, nous allons vous garder en ligne. Donc, Oscar va vous reprendre parce que vous avez reçu plein de contacts de personnes qui souhaiteraient donc par la suite vous parler si vous êtes d'accord.
Oh, c'est Julie. Cool.
Mmh. Ouais, ouais, c'est très cool. C'est l'alimentaire.
Ouais, super.
Je vous embrasse.
Moi aussi, Julie. Je vous embrasse.
Et puis je vous dis à très très bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Un grand merci à tous pour cette très très belle émission. Je remercie Dominique, Flora, Christophe, Julie. Merci à l'équipe également. Merci Andreas, merci Oscar, merci Jules. De très très beaux témoignages. Demain, vous retrouverez l'excellente Sabrina Philippe. Philippe, à partir de 22h30. Vous avez tout de suite rendez-vous avec les dossiers extraordinaires de Pierre Bellemare. Douce nuit. Il est 1h et vous écoutez Europe 1.